peut rendre à un individu sa singularité, peut rendre à un individu sa singularité. Quand il apparaissait tout d'abord insignifiant. Quand il apparaissait tout d'abord insignifiant. Je crois. Et là, je vais citer la phrase du texte importante pour cette partie du texte. Hein, où il y a les mots-clés. Je suis restée incapable d'accorder mon attention à des choses ou à des gens construits. Une fois que leur image m'avait été présentée dans la solitude par un papier, j'aurais fait des lieux, risqué la mort pour retrouver. Alors, j'annonce maintenant mon thème directeur pour l'analyse de ce commentaire. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou pas? Donc, voilà mon thème directeur. Je commence par une citation. Mon incapacité de regarder et d'écouter. Fin de citation. Mon incapacité de regarder et d'écouter. Virgule. À la suite du narrateur. Virgule. Qui se demande comment regarder les êtres et le monde. On se demandera comment le regard juste, hein, juste au sens de cela, précis, le regard bon, celui qui convient à l'effacement, adéquat. On se demandera comment le regard juste que recherche le narrateur est étroitement lié, est étroitement lié à la constitution progressive de sa vocation d'écrivain, est étroitement lié à la constitution progressive de sa vocation d'écrivain. Donc, ici, mon thème directeur part de l'idée que la découverte progressive du regard juste dans ce texte est concomitante, participe de la découverte de sa vocation d'écrivain. C'est-à-dire que devenir un bon écrivain, c'est trouver le regard juste. Et c'est ça que le narrateur découvre dans le texte. Et donc ce que je vais vouloir montrer, c'est en quoi le travail d'écrivain dans ce texte apparaît comme complètement lié à la trouvaille, à la découverte du bon regard. Donc, c'est mon thème directeur. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je continue. J'annonce mon plan. Tout d'abord, on se penchera sur la prise de conscience par le narrateur de sa vocation d'écrivain. Hein, donc, première chose, le narrateur prend conscience de sa vocation d'écrivain. Puis, on analysera le regard recherché par le narrateur. Puis, on analysera le regard recherché par le narrateur. Et enfin, on étudiera le rôle spécifique de l'art dans ce regard. Et enfin, on étudiera le rôle spécifique de l'art dans ce regard. Alors, mon plan commence par l'idée que ce texte parle de la vocation d'écrivain. C'est le premier étape. Deuxième étape du commentaire, je vais plus loin. Je dis, mais cette vocation d'écrivain, elle se découvre par la découverte du bon regard. Donc elle est liée au regard. Du coup, je pousse mon analyse dans la deuxième partie de mon commentaire en disant, donc, un, vocation, deuxièmement, vocation et regard, et troisièmement, je dis, et quand on a trouvé ce regard juste, on comprend que l'œuvre d'art est là pour révéler le réel. Vous comprenez bien cette idée? C'est-à-dire que le réel que l'on regarde, c'est vraiment très agréable, le bruit de soi, lorsqu'on regarde le réel en l'observant simplement, on ne le voit pas. On ne le voit pas dans sa vérité. Ce que découvre le narrateur, c'est qu'on voit le réel dans sa vérité lorsqu'il est transformé par l'art. Donc, la troisième étape de mon commentaire, c'est de dire transformation du regard par l'art. Hein? Donc, il y a vocation d'écrivain, deuxièmement, écriture et regard, troisièmement, regard et art, et transformation de l'art. Hein? Donc, conclusion, par l'écriture, le regard sur les choses est métamorphosé. Vous comprenez le suivi, le développement du commentaire? Alors, grand 1, la conscience d'être écrivain. Petit 1, étape dans la vocation qui prend la forme d'abord d'un découragement, puis d'une relativisation. Hein, donc ça, c'est ce que vous aviez sur les six aspects que vous avez écrits. Entre le début et la fin du texte, quelque chose change. Là, se dire quelque chose de plus important sur les êtres que la vie ordinaire ne peut le dire. Au début du texte, le narrateur est découragé suite à la lecture de son cours. Il pense qu'il est incapable de regarder et d'écouter. De quoi, je cite, « mon incapacité de regarder et d'écouter ». Fin de citation. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas touché à ça? Vous avez trouvé? Oui. Le narrateur ne regarde que lorsqu'il reconnaît. Alors, peut-être que tout le monde a bien mis son nom sur la feuille de présence. Tout le monde a signé? Oui? C'est bon? Le narrateur ne regarde que lorsqu'il reconnaît quelque chose de l'ordre d'une essence générale. Opposé à cela, dans la deuxième partie du texte, le narrateur évoque le passage de ce type de regard insignifiant à un regard focalisé sur l'intérêt particulier d'un personnage. Donc je cite, « que de toi je le savais bien, même si cette page de Rumpur ne me l'eût appris, je suis restée incapable d'accorder mon attention à des choses ou à des gens qu'ensuite, une fois que leur image m'avait été présentée dans la solitude par un artiste, j'aurais fait des yeux risquer la mort pour retrouver. » Donc, dans cette phrase, on a tout le passage du découragement lié à l'indifférence que le monde provoque sur le narrateur qui essaie de devenir écrivain, mais qui voit d'abord un monde indifférent, insignifiant, hein, le renversement sur ce monde qui tout d'un coup devient extrêmement signifiant, même plus que signifiant, il devient vital, comme le montrent les métaphores « j'aurais fait des lieux, risquer la mort pour retrouver. Deuxièmement, une relation à la littérature antérieure. Hein, cette vocation de l'écrivain, elle va se définir par rapport à la littérature antérieure. Et ici, le narrateur va prendre volontairement position pour une littérature de la profondeur et non pour une littérature de la surface. Ce qui suscite l'interrogation du narrateur sur la question du regard, c'est la lecture de Goncourt. Le narrateur s'affirme dès le début en opposition au style de Goncourt. Ce point, entre les guillemets, l'indice individuel de naïveté qui est frappant sur ce mémorial, fermé les yeux. Donc, ici, ce dont il est question, hein, c'est le Goncourt qu'il a lu, que le narrateur a lu, et qu'il a trouvé trop plein de détails, et donc intéressant, donnant en fait une image du réel qui n'en est que la surface. Alors que le peintre impressionniste met en évidence des vérités relatives au volume, à la lumière, au mouvement, donc ce qui tout de suite nous introduit dans un espace avec une profondeur. Pour voir le volume des mouvements de la lumière, il faut une profondeur. Le tableau réaliste donnera l'image d'une personne ravissante, alors que le deuxième type de tableau fera croire qu'il est l'être. Et ici, on peut trouver une référence au cubisme d'un Picasso qui soulevait des débats à l'époque. Donc, pour parler ici du fait que le narrateur, la vocation d'écrivain du narrateur se dessine en opposition à la littérature réaliste, le Goncourt qu'il rejette. Et toute la découverte qu'il va faire dans ce texte de sa vocation de narrateur, hein, de sa vocation d'écrivain, a comme point de départ le fait qu'il rejette la façon d'écrire d'un Goncourt. Puisque Goncourt porte un regard sur le monde qui n'est que de l'observation. Donc il ne prend que les choses qui sont en surface, les détails à la surface du réel, qui les voient du coup, hein, de la vérité des choses. Et par rapport à cette littérature, le narrateur dit tout de suite ce qu'il a fait. Petit 3, c'est une vocation encore flottante. Tout n'est pas encore fixé. À la fin du livre, la vocation ne sera plus peut-être. Ce besoin de voir dans l'être ce que l'observation ne donne pas de lui, le narrateur montre qu'il a besoin de voir chez les gens ce qu'il ne voit pas par l'observation. Ce n'est pas en observant minutieusement les gens qu'il arrive à voir quelque chose d'intéressant chez eux. Vous comprenez? Alors que le réalisme cherche à faire une observation la plus précise possible de la réalité afin de rendre une image extrêmement proche de la réalité, de dire la vérité de la chose en augmentant les détails. Et le narrateur, chez Proust, a l'impression que s'il fait ce genre d'observation et qu'il rend ce genre de réel, il va rendre une surface des choses. Mais il ne va pas dire la profondeur des choses. Il ne va pas dire la vérité sur les choses. C'est clair ou vous voulez encore des explications? Donc, ce besoin de voir dans l'être ce que l'observation ne donne pas de lui commence à définir la vocation du peintre. Cette vocation d'écrivain, elle passe par une comparaison avec le peintre. Mais différents éléments du texte soulignent que cette vocation est encore un processus. Elle est en train de se constituer. Et ce qui indique cette relation encore flottante, ce sont les adjectifs qui disent un manque, un défaut, la frivolité, la mondanité et tous les verbes et adjectifs d'incapacité. J'étais incapable de. Je suis restée incapable de. Des exclamations. Sera-t-il vraiment impossible de le voir? Ou bien l'expression d'un regret. Quel malheur que. J'ai ainsi achevé ma première partie. J'ai montré que ce texte posait le premier jalon dans la vocation d'un écrivain. Et maintenant, je vais résumer très brièvement pour ma transition et annoncer la deuxième partie. La transition, le narrateur est à la recherche de sa vocation. Il passe du découragement à la révélation. Il rejette les canons classiques de la littérature réaliste, je reprends le petit 2, et manifeste l'aspiration à un certain regard qui, pour le moment, ne se traduit que de façon flottante et incertaine. Là, j'ai repris le petit 3. C'est clair ? Et ensuite, je vais maintenant résumer tout ça pour pouvoir passer au grand 2. Vous comprenez, hein, quand je dis grand 1, ça veut dire la première partie. Grand 2, c'est la deuxième partie. Aussi, ce regard est-il profondément lié à la constitution de sa vocation d'écrivain? Aussi, ce regard est-il profondément lié à la constitution de sa vocation d'écrivain? Donc ici, je reprends l'idée du regard qui est apparu pour montrer que ce qui va être constitutif de cette vocation d'écrivain, ça va être le regard. Et donc je pose la question, comment ce regard est-il écrit et analysé dans le texte? Et j'arrive au grand 2. Un certain regard. Petit 1. Les intermittences d'un regard. Le narrateur parle d'un second personnage existant en lui. Le narrateur décrit une sorte de dédoublement. Hein? Pour parler de l'intermittence, je commence par dire qu'il y a intermittence parce qu'il y a un dédoublement. Il y a deux personnages qui n'existent pas en même temps, mais l'un existe quand l'autre n'existe pas. Donc, première raison d'intermittence, c'est le fait qu'il y ait dédoublement du narrateur. Oui, c'est son alter ego. Ce personnage existe en même temps que lui, mais ne se réveille que lorsqu'il voit une essence générale. Donc les deux personnages ne sont pas éveillés en même temps. C'est pour ça que le regard est intermittent. L'intermittence du personnage est soulignée par toute une série d'incertitudes qui le caractérisent. On peut noter dans la phrase qu'il savait plus virgule, plus ou moins bien virgule, regarder. Donc je note sur cette phrase et je commence. La modalisation plus ou moins bien introduite entre virgule, vous comprenez qu'il s'agit d'une modalisation. Introduit un jugement. Oui ? Vous comprenez ? On ne dit pas que ce personnage sait regarder. On dit qu'il sait plus ou moins bien regarder. Donc on introduit un doute sur sa capacité à regarder. Il sait regarder, mais peut-être pas très bien. Et donc cela, le verbe regarder est coupé de la proposition relative et du verbe savoir, ce qui renforce l'incertitude du regard. Vous comprenez que ça renforce l'incertitude du regard de dire qu'il savait plus ou moins bien regarder que de dire qu'il savait regarder. Vous entendez la différence? Oui?
regard bleu.
Cela renforce l'incertitude du regard, et le regard est ainsi seul, isolé entre deux virgules. Regarder est isolé entre deux virgules. Ensuite, on a un ne que. J'ai pas le texte sous les yeux parce que je ne veux pas reprendre tout, mais le narrateur dit ensuite. Alors le personnage regardait de sorte que l'observation. Ne reprenant vie que. Ici, on a un ne que qui est une forme restrictive. Restrictive, ça veut dire qu'elle restreint. Que tout le monde comprend la différence. Elle, cette forme restrictive de la phrase, elle insiste aussi sur l'existence intermittente du personnage. Hein, puisque la restriction, c'est d'être à un seul moment du temps. Donc c'est rendre les choses non pas permanentes, mais intermittentes. C'est clair? Quelqu'un a-t-il besoin d'explication? Non? En fin de phrase, le personnage intermittent semble, après tous les efforts par lesquels il est passé, exister pleinement. Non, je lis. Qui faisait sa nourriture et sa joie. Et il se dresse aussi vivant que le premier personnage qui se trouve au début de la phrase. Dans une même phrase, les deux personnages coexistent. Et l'un tour à tour meurt pour donner naissance à l'autre. Il y a un passage de la mort à la vie, du sommeil au réveil, dans une même phrase, ce qui montre l'intermittence. Notez l'appétit de ce deuxième personnage, sa nourriture, sa gaieté, sa joie, contre l'abattement du premier personnage, comme si alternativement les deux personnages se donnaient naissance. Naissance et mort. Deuxièmement, des qualités spécifiques. Trois comparaisons disent l'écrivain en le comparant à autre chose. Les comparaisons mettent en évidence un certain rapport à la profondeur, mais une profondeur qui est tout près de la surface. Plus on avance et plus les comparaisons vont permettre de descendre plus profondément. Ici, on reste à mi-profondeur. On reste à une certaine distance de la surface. Je cite. Alors le personnage écoutait et regardait, mais à une certaine profondeur seulement, de sorte que l'observation n'en profitait pas. Notez la modalisation restrictive introduite par l'adverbe seulement. Et la négation n'en profitait pas. Cela montre que cette observation en profondeur empêche le narrateur de voir certaines choses. Le narrateur ne peut pas voir, lorsqu'il est comme le géomètre, il voit à l'intérieur, mais du coup il ne voit pas les qualités sensibles des choses. Quand il est comme le radiographe, il voit les os des gens, mais du coup il ne voit pas leur peau. Quand il est comme le peintre, il voit la laideur interne des gens, mais du coup, il ne voit pas ce qu'il peut faire leur beauté. Et donc, il reste à une certaine profondeur des choses. Petit 3, une certaine distance de la surface. Pour être écrivain, on ne peut pas se contenter de la surface. Le narrateur, au cours du texte, oppose à ce regard en demi-profondeur, un autre regard. Ce regard en demi-profondeur, il reste superficiel, il reste trop près de la surface. Ce regard qui apparaît dans la première partie, il reste trop près de la surface. En revanche, le narrateur oppose un autre regard, qui est, dans la deuxième partie du texte, celui porté après que l'art a révélé quelque chose de l'être. rapport à sa vocation. Cette deuxième partie caractérise l'état du personnage par rapport à sa vocation. Sa vocation est donc profondément liée à la quête d'un certain regard. Sa vocation est profondément liée à la quête d'un certain regard. Cette conscience de son regard se double du regard qu'il faut pour être artiste. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le regard qu'il porte en tant qu'homme et le regard qu'il faut porter en tant qu'artiste. Vous voyez le doublement de ce regard ? D'où l'élaboration de loi, car le texte exprime ce que l'art peut faire. D'où l'élaboration de loi, car le texte exprime ce que l'art peut faire. Alors, tout d'abord, l'art peut transformer l'insignifiant en signifiant. Dans la première partie du texte, le narrateur regarde dans les gens ce qui est général. Et il comprend qu'il faut que par l'art, c'est pas tout le sens de ce texte, par l'art, l'art peut retrouver, révéler la singularité d'une personne qui autrement paraîtrait inintéressante, ne se distinguerait pas des autres. Petit 1. La manière plutôt que la matière. La matière, c'est-à-dire les choses que le personnage peut voir, ont finalement peu d'importance par rapport à la manière qui est là, puisque c'est la manière qu'on va rendre une personne qui va lui donner son importance, qui va révéler son importance. Donc l'importance d'une personne ne se trouve pas dans la personne, dans la matière, mais dans l'art, qui seul est capable de lui rendre son importance. Est-ce que cette idée est compréhensible ? Pas trop ? Alors, toute l'idée du texte, c'est de considérer que dans le monde, les choses, si on les regarde comme ça, sont insignifiantes. Elles sont insignifiantes à la fois pour le narrateur, enfin, pour le narrateur qui lit Goncourt et qui essaie de regarder le monde avec tous les détails que donne le réalisme. Et le narrateur se rend compte que le réalisme a beau doser tous les détails pour rendre le réel au plus proche du réel, il ne donne comme image du réel que la surface. Donc il ne donne pas la vérité des choses, et donc il laisse les choses et les gens aussi insignifiants que dans le monde. L'observation minutieuse du réalisme ne permet pas d'arriver à la vérité et à l'intérêt singulier des choses et des êtres. Deuxième type de regard, le narrateur, au lieu de regarder les hommes, leur surface, du coup, va essayer de regarder un peu en profondeur, puisque c'est le début de sa vocation d'écrivain. Et donc, quand il regarde les hommes en profondeur, il va retrouver tout de suite en eux quelque chose qui va lui faire penser à autre chose. Donc ce qui va l'intéresser, c'est immédiatement du général. Au lieu de voir du singulier, il va voir tout de suite du général dans les êtres, ce qui peut relier les êtres entre eux. Et donc là, il va laisser les gens dans leur insignifiance et dans leur indistinction. Vous comprenez ? Puisqu'il va du coup s'occuper des qualités sensibles et de ce qu'il peut faire, la partie 7000 personnes. Et soudain, il découvre à la fin du texte que, en réalité, les seuls, puisque quand il lit un roman de Goncourt, les gens ne l'intéressent pas. Ils trouvent les gens aussi insignifiants que quand ils les voient dans la vraie. Deuxièmement, quand il observe les gens, il les trouve insignifiants, puisqu'en fait, il ne les voit pas comme des êtres singuliers, il voit des choses générales devant lui. Donc, il ne l'intéresse pas. Et il se rend compte à la fin du texte que les uniques moments où la singularité d'une personne lui sont révélés, c'est lorsqu'il a vu cette personne d'abord transfigurée par le regard de l'art. Donc, le regard juste qui rend au monde et aux êtres leur singularité et leur vérité, ce n'est pas le regard du réalisme, ce n'est pas le regard de la d'une certaine profondeur qui ne voit que le général, c'est le regard de l'art. Ce qui me fait arriver à ma troisième partie, le réel transformé par l'art. Le regard juste, ce regard juste que j'ai, le narrateur, cherche sa vocation d'écrivain. C'est toute ma première partie. Deux, il comprend que cette vocation d'écrivain est liée à un certain regard. C'est ma deuxième partie. Trois, il comprend que ce regard, en fait, ce n'est pas un regard qui peut venir de lui. Ce regard, c'est uniquement l'art qui le donne. Donc ce regard, en fait, qui métamorphose les êtres et le monde, il ne faut pas qu'il le cherche en lui, il n'existera que lorsqu'il aura créé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que ce n'est pas avant de créer qu'il faut se dire comment est-ce qu'il faut que je regarde les gens pour ensuite les rendre bien dans mon écriture. Il faut qu'il écrive, qu'il fasse un portrait. Et c'est lorsqu'il aura fait ce portrait que l'être existera dans sa singularité et sera regardé sous un regard juste qui lui rend sa réalité. Mais ce regard, c'est ça qui est très intéressant, ce regard n'existe pas avant que l'œuvre d'art ne soit créée. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ce n'est pas très clair? Est-ce que j'ai besoin de répéter? Alors, est-ce que quelqu'un veut que je répète? Non? Oui? Oui? Donc, le regard. Un, le narrateur comprend, alors il cherche sa vocation d'écrivain. Et il cherche sa vocation d'écrivain parce qu'il a lu un livre des Goncourt et il a trouvé ça inintéressant. Et il se dit, mais je ne pourrais jamais être écrivain si être écrivain, c'est rendre une image aussi insignifiante du monde. Parce qu'en fait, le narrateur, il est dans le monde et il voit. Tout ce qu'il voit autour de lui lui semble égal. Tous les êtres sont pareils, aucun être n'a vraiment d'importance à part les deux femmes qu'il a aimées, Gilbert et Albertine. Pour lui, tous les hommes sont égaux. Il ne voit pas dans un salon mondain. Tout le monde est pareil, il dit les mêmes banalités, a le même type d'intérêt, il peut trouver des points communs entre tout le monde. Hein? Donc, le réel est insignifiant, il est nivelé. Hein? Nivelé. Première étape du texte, et donc de mon commentaire, le narrateur cherche sa vocation d'écrivain et il se dit, si c'est pour écrire comme les Goncourt, voilà, les Goncourt, comme ils rendent tous les détails du réel, ils le rendent aussi plat, aussi nivelé et aussi insignifiant que ce que voit le narrateur. Et le narrateur, du coup, en lisant Goncourt, se dit, moi je ne peux pas écrire si c'est pour rendre un regard sur le monde qui est aussi insignifiant. Donc, le narrateur se dit, qu'est-ce qui se passe chez les Goncourt? Chez Goncourt, le regard porté sur le monde est aussi plat, nivelle, est aussi nivellateur que mon propre regard. Donc, ça veut dire que pour trouver ma vocation d'écrivain, je dois trouver un bon regard. Un regard qui rende aux choses leur singularité. Et qui permettent aux choses de se distinguer les unes des autres, de ne pas être égales, nivelées, de ne pas être une surface. Il faut que je cherche une profondeur. Donc, sa vocation d'écrivain est liée à la recherche de ce regard. Et ce regard, il va le chercher en cherchant une profondeur dans les êtres. Mais quand il cherche, et donc tout ça, c'est la deuxième partie de mon commentaire, mais quand il cherche une profondeur dans les êtres, il est immédiatement ramené à du général. Donc il se dit que ça ne va pas non plus. Et finalement, il comprend que les seuls moments, et donc là il y a une inversion des choses, les seuls moments où le réel lui a semblé rendu à sa vérité et à sa singularité, c'est quand il n'a pas d'abord regardé le réel, puis vu le réel transposé dans l'œuvre d'art, il a vu une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art lui fait comprendre la singularité du réel. Il a vu le portrait d'un homme et il a compris tout l'intérêt de cet homme. Alors que lorsqu'il voyait l'homme dans le salon mondain, il trouvait que cet homme n'était pas intéressant. Et donc, il comprend en voyant une œuvre d'art qu'en fait le regard qu'il cherche pour être humain, ce regard ne se trouve pas en lui en tant qu'homme qui peut observer le monde. Ce n'est pas le regard de l'observation. Ce regard, il n'existe qu'à partir du moment où l'œuvre d'art a été créée. Et alors l'œuvre d'art est le reflet du regard. Et elle donne le regard pour celui qui regarde l'œuvre d'art. Donc le regard, ce n'est pas un regard d'homme, ce n'est pas lui son regard d'écrivain. Le regard juste qu'il cherche, en fait, il l'aura trouvé une fois qu'il aura écrit. Et ce regard, il n'existera pas dans l'homme Proust, il existera dans le texte. Est-ce que maintenant c'est clair? Et donc tout ça, c'est ma troisième partie. Ce regard juste qu'il cherche, c'est le regard transformé par l'art. Donc la manière plutôt que la matière, c'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas l'observation du réel, ce n'est pas le réel, c'est le regard que l'on recherche et qui est le regard de l'œuvre d'art, donné uniquement par l'œuvre d'art. Petit 2, du figurant à la figure, enfin, ce passage de l'insignifiant au signifiant est accentué à la toute fin du texte par l'opposition entre figurant et figure. Le narrateur fait ici un jeu sur le même mot, sur deux mots qui ont des sonorités très proches, pour donner deux versants radicalement opposés de l'être. Le figurant connote l'insignifiance et l'interchangeabilité. Hein, si on a besoin d'un figurant dans une scène qui est juste traverse une rue, on peut prendre toi, ou toi, ou toi, ou toi, ou toi. Et le figurant, il est interchangeable. On ne se souvient pas du visage du figurant. Hein, tout le monde a bien compris que le figurant, c'est un masotka, c'est ça? C'est juste un personnage qui passe dans une foule, qui sert de décor. C'est un personnage qui appartient au décor, donc il ne se distingue pas du décor, il est le décor. Il reste dans l'indistinction. Alors que la figure, au contraire, a une connotation de singularité, de singularisation et d'unicité. Elle est unique, alors que le figurant, n'importe qui peut être figurant. Mademoiselle, est-ce que vous avez un commentaire intéressant à nous partager? Ce qui est bien, c'est que les deux répondent en même temps, donc c'est pas d'hésitation. Bon. La figure a des traits spécifiques, stabilisés et figurés. Une figure qui permet de stabiliser, figurer une figure importante. Et maintenant, conclusion. Alors, dans la première partie de ma conclusion, je reprends les éléments que j'ai. Donc je reprends un qui est mon thème directeur et deux, les éléments que j'ai évoqués dans mon commentaire pour les approfondir une dernière fois. Donc je ne dois pas répéter ce que j'ai dit, je dois reprendre les éléments clés de mon commentaire en approfondissant. Ce texte marque une étape dans le développement de la vocation du narrateur. Là, je reprends l'idée de la narration. Ce texte marque une étape dans le développement de la vocation du narrateur. Le point, celui qui prend conscience que le travail d'écrivain est lié à l'affinement progressif. Affinement, ça veut dire affiner, rendre de plus en plus fin. À l'affinement progressif d'un regard juste sur le monde et sur les êtres. Point. Le mouvement du texte. Donc là, j'ai repris ce que j'ai dit dans les deux premières parties de mon commentaire. Ensuite, le mouvement du texte opère une métamorphose. Le mouvement du texte opère une métamorphose. Donc là, je pousse mon commentaire en employant le terme métamorphose. Hein? J'avais décrit le fait que le narrateur cherchait un regard, et ici, je qualifie ce regard de métamorphose du regard sur les êtres. Donc, je pousse un peu plus loin mon analyse. Opère une métamorphose. Deux points. Les êtres qui apparaissaient indistincts au début, se présentent à la fin du texte, virgule, comme par une conversion du regard, Donc, conversion, c'est à nouveau un terme qui approfondit mon analyse. Dans l'heure magistrale singularité. Le narrateur comprend. Le narrateur comprend de façon intuitive que ce qui lui fait opérer cette métamorphose du regard, le narrateur comprend de façon intuitive que ce qui lui fait opérer cette métamorphose du regard, c'est l'œuvre d'art. Donc ici, je conclue le texte hein, en ayant repris les idées principales sur l'idée que pour être écrivain, il faut métamorphoser son regard. Hein. C'est l'idée d'être écrivain et ça ne va pas l'idée d'un regard, mais qu'en fait ce regard juste, au final, il n'appartient qu'à l'œuvre d'art. Ce regard juste n'appartient en définitive qu'à l'œuvre d'art. Pour le moment, donc maintenant, je passe à la deuxième partie de la conclusion, où je vais relier ce texte à au reste de l'œuvre. Et ensuite, faire une ouverture d'un point général. Pour le moment, ce regard est présenté comme inconscient, encore. Ce regard est présenté comme encore incomplet, parce qu'il s'agit d'une étape dans la conclusion. Mais la voix est nommée, je crois. C'est par un approfondissement de ce regard. C'est par un approfondissement de ce regard. Un affinement de la méthode. Que l'art va pouvoir advenir. Et maintenant, une ouverture plus générale sur ce texte, en posant la question de ce qui est signifiant et de ce qui est insignifiant, le narrateur rappelle la question de la modernité qui tente de faire entrer l'insignifiant et le banal dans le modèle. Le narrateur rappelle la question de la modernité qui tente de faire entrer dans le polar l'insignifiant et le banal. Donc ça, ce sont des choses que l'on reverra la semaine prochaine. L'œuvre d'art moderne a essayé d'introduire, de s'intéresser au banal et à l'insignifiant. C'est ce que évoque dans ce texte. Vous comprenez, de façon, vous voyez, je relis premier cran ce texte à l'œuvre, deuxième cran à l'idée plus générale. Je montre l'impact qu'il peut avoir dans l'histoire générale de la littérature et de l'histoire. Alors, vous m'avez l'air très fatiguée en fait aujourd'hui. C'est à cause de quoi? Vous avez un examen maintenant encore avec Grégory? Non? C'est l'hiver?
Oui.
C'est l'hiver, c'est la neige? Oui, la neige, c'est très fatiguant. Alors, on va faire une pause.